Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Un arbre, c'est bien plus que des racines, un tronc et des feuilles. Une forêt, c'est bien plus qu'un groupe d'arbres. Alors quand il brûle, eh bien nous perdons bien plus que ce que nous voyons. Le 22 août dernier, les satellites ont détecté 3358 incendies dans la plus grande forêt tropicale du monde qu'est l'Amazonie. Un triste record qui se décline sur tous les continents. En Europe, plus de 700 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année. Dans l'Ouest américain, ça brûle encore. Et dans le bassin du Congo, ce sont 500 000 hectares qui ont été détruits par le feu, selon Global Forest Watch. Ce panorama est dramatique, car comme vous allez le découvrir dans cette émission, ce patrimoine réduit en cendres est une perte inestimable pour l'habitabilité de notre planète. Les forêts nourrissent les sols, créent la pluie, abritent la biodiversité et sont en constante interaction avec la Lune. Ernst Zürcher, notre invité, leur a consacré sa vie. Il les étudie dans le monde entier et les enseigne en Suisse. Il a publié « Arbres entre visible et invisible, s'étonner, comprendre, agir » chez Actes Sud.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Ernst Zürcher.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur forestier suisse. Vous êtes un chercheur un peu atypique parce que vous mêlez la science à la spiritualité, mais votre objet de recherche est toujours le même, ce sont les forêts, les arbres, des forêts qui souffrent beaucoup à cause des activités humaines et du changement climatique. Pourtant, ce sont des écosystèmes vitaux pour que notre planète reste habitable. On n'en a pas toujours pleinement conscience.
Oui, en fait, la forêt, c'est le mode d'action de la nature lorsqu'elle est en libre cours. Partout où c'est possible, la nature met en place des arbres. Partout lorsque on arrive face à un écosystème ou un milieu naturel intact, c'est la forêt qui est le mode d'expression primaire. Et ensuite, lorsque ça n'est plus possible, on a un mélange de forêts, de savanes et finalement des savanes ou des toundras, etc.
Donc dès que la terre est à nu, finalement, les arbres poussent.
Voilà, c'est l'observation. C'est des arbres qui ont toujours leur place primordiale partout. Si on met une terre à nu, si on laisse l'évolution se dérouler, alors c'est une forêt qui se reconstitue spontanément.
Et les forêts jouent un rôle essentiel, par exemple, dans la répartition de l'eau sur la planète.
Ça, c'est très récent comme découverte ou comme compréhension du processus. C'est que les arbres, et surtout les forêts qui arrivent à protéger leur eau qu'ils ont à l'intérieur, reçoivent l'impact solaire, font la photosynthèse, transforment cet impact solaire en biomasse, en biodiversité végétale, animale. Et par ce processus, émettent de grandes quantités d'eau. 300 litres d'eau sont nécessaires en évapotranspiration pour former un kilo de biomasse. Donc ce processus de croissance, de formation de forestière transforme à la fois l'impact solaire en richesse et en même temps, avec l'évapotranspiration nécessaire pour cela, forme des nuages. Et en plus, les forêts provoquent les pluies.
Et ces nuages, quand ils s'accumulent, ça fait même des rivières d'eau finalement qui circulent autour de la planète ?
Absolument, c'est la découverte concernant le grand bassin amazonien tel qu'il fonctionne encore, tel qu'il est menacé. Ce bassin amazonien est donc une enveloppe forestière au niveau équatorial. Et cette forêt reçoit de l'eau aussi de l'Amazone qui coule de l'ouest en direction de l'est pour entrer dans l'Atlantique. Eh bien, ces forêts qui font cette évapotranspiration, ces cycles de formation de nuages et de précipitations, le font à cycles répétés. Une demi-douzaine de cycles évapotranspiration-précipitation a lieu. Et par ce phénomène, les forêts aspirent les masses d'air déjà un peu humides de l'Atlantique et les enrichissent de leur propre humidité. Et ça constitue d'énormes... Le mot rivière est très faible, c'est plus que des fleuves, c'est plus que l'Amazone elle-même, puisque ces rivières, ces fleuves, ces masses d'air chaudes et humides atmosphériques vont circuler en sens inverse de l'Atlantique contre les contreforts des Andes, être déviées contre le nord, déviées contre le sud, tempérer et humidifier le continent nord-américain, et faire la même chose pour l'Argentine en particulier. Et on voit donc ce double fleuve, un fleuve visible et un fleuve invisible, qui est beaucoup plus important et qui alimente les grands cycles hydrologiques de la Terre.
Donc vous dites que les forêts sont les châteaux d'eau de la planète.
Absolument, à chaque endroit, naturellement l'Amazonie, comme on vient de l'évoquer, mais à chaque endroit, les forêts sont les lieux où l'eau est stockée et redistribuée dans la bonne dose, dirons-nous, et à travers toutes les saisons, même à travers les saisons sèches, ces forêts étant les banques hydrologiques du paysage vont constituer comme des châteaux d'eau locaux.
C'est valable aussi dans le bassin du Congo.
Alors, le bassin du Congo, autre système forestier équatorial, mais dans chaque région, chaque île, chaque paysage a ses châteaux d'eau locaux. Les rivières d'Europe centrale qui ont leur faune piscicole, ces poissons qui montent et qui redescendent ces rivières, c'est grâce au fait que ces rivières sont alimentées régulièrement, même pendant la saison sèche, même en été, par les forêts qui maintiennent cette eau en fraîcheur et la diffusent très doucement.
Et donc, cela veut dire que quand on coupe les forêts, ça a un impact sur cet écosystème. Et il y a même des études qui disent que si on va trop loin dans la déforestation de l'Amazonie, par exemple, ça pourrait affecter le fameux courant Gulf Stream qui garantit notamment à la partie nord de l'Europe d'être une zone tempérée.
Oui, c'est une des suppositions ou bien une des craintes. Certains pensent que le Gulf Stream, qui prend naissance dans le golfe du Mexique et qui va traverser l'Atlantique Nord pour tempérer la Scandinavie, l'Écosse, l'Irlande, etc., l'ouest de la France, éventuellement c'est aussi un des moteurs de ce Gulf Stream que ces immenses rivières volantes qui vont tempérer le continent américain. Mais à une autre échelle, à chaque niveau de lecture du paysage, on a des paysages qui, à l'origine, tout comme l'Amazonie est encore relativement intacte, malheureusement de moins en moins, mais la plaine du Pô, c'était l'Amazonie de l'Europe. La grande forêt hercynienne de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, que César décrit encore dans la guerre des Gaules, cette forêt couvrait toute l'Europe avec une richesse absolument phénoménale. On n'imagine pas les forêts de la plaine du Pô, ce que c'était, on les a oubliées. Déjà les Romains, les Étrusques les ont déjà partiellement détruites. Et ces forêts étaient constitutives du climat et des sols. Et l'agriculture a hérité de ces sols, les a utilisées, les a finalement gaspillées, puisque toute cette vie organique des sols, toute cette matière organique des sols formée par ces milliers d'années de forêts ont été données à l'homme, ont été prises par l'homme et vilipendées quelque part. Donc, on a déboisé d'énormes régions pratiquement partout. Tout le pourtour méditerranéen, les Grecs, Platon déplore le déboisement des îles grecques. Et à quoi ça pouvait ressembler? On en a encore une image, si on va juste un peu à côté, en Turquie. Sur la côte sud de la Turquie, on a encore de magnifiques îles boisées, avec des ours et toute une faune sauvage. Et juste à côté, vous avez les îles complètement mises à nu, où on n'a plus que la structure géologique. C'est très beau, c'est bleu et blanc, mais ça pourrait être bleu, blanc et vert. Et ça pourrait surtout être bleu et vert.
Alors vous parliez des sols, parce qu'une forêt, Quand on se promène dans une forêt, on voit les arbres, éventuellement on lève la tête, on voit la canopée, le haut des arbres, mais on n'a aucune conscience, pour la plupart d'entre nous, de ce qui se passe dans le sol. Or, il y a une richesse incroyable dans le sol d'une forêt.
C'est d'une complexité effectivement incroyable. C'est là que se déroule quelque part l'intelligence forestière. Les arbres visibles, c'est un peu leur système de digestion. Ça communique aussi, on pourrait évoquer ça, mais au niveau souterrain, les arbres ne sont pas tout seuls. Ils ont compris depuis longtemps la vertu de la mise ensemble des capacités, des fonctions, les symbioses, les partenariats. Et visiblement, lorsque les arbres sont de la même espèce, ils vont faire des soudures racinaires, des anastomoses. Et lorsqu'un arbre est peut-être cassé par un orage ou abattu, même par la main de l'homme, deux arbres voisins vont montrer ceci, c'est que la souche qui reste dans des deux arbres abattus ne va pas forcément mourir et se décomposer. Elle va continuer de vivre pour certaines espèces qui ont ces soudures racinaires de manière très systématique. Et on va voir que cette souche continue de vivre, elle va recouvrir sa tranche d'abattage par un bourrelet de recouvrement, ça continue de vivre. Et on se demande, mais comment cet arbre peut-il faire ça, puisqu'il n'est plus alimenté par sa propre couronne qui a été abattue avec le tronc? Eh bien, cette souche continue de vivre grâce à ses contacts avec le voisin. Alors pourquoi est-ce que cette souche continue de vivre? Quel est l'intérêt de faire cela? Eh bien, on demande au voisin, et puis on se rend compte que ce voisin a maintenant un voisin dont l'arbre est abattu, mais dont le système racinaire est encore entièrement fonctionnel puisqu'il l'alimente. Et cet arbre a deux systèmes racinaires qui l'alimentent. Donc la mort d'un arbre n'est pas forcément dramatique pour le voisin. Et là, c'est très important de comprendre que de manière souterraine, il faut laisser au maximum, laisser jouer ces interactions et ces collaborations. Ne jamais dessoucher un arbre, c'est trop précieux. Même si cette souche meurt, il faut laisser se décomposer cette matière organique souterraine parce qu'elle va alimenter toute la faune qui va se nourrir de ça et qui va être capable de pénétrer beaucoup plus en profondeur. C'est des galeries pour les vers de terre, par exemple, ces racines qui se décomposent. Sans cela, vous avez le tassement des sols et la faune ne peut plus les coloniser. Ça, c'est un aspect. Ensuite, les arbres d'espèces différentes, c'est des racines qui ont leur propre manière de s'associer, mais à d'autres organismes, les champignons, qui, eux, vont cultiver des bactéries. Eh bien, les champignons forment avec les racines des arbres ce qu'on appelle des mycorhizes, c'est donc des champignons associés à des racines. Et certains champignons colonisent certains arbres, mais aussi d'autres espèces d'arbres. Donc, champignons interposés, on a une communication directe entre espèces différentes d'arbres. Et c'est ainsi qu'on peut imaginer que si on avait le jeu de l'esprit d'extraire un arbre de la forêt en pensant que tout ça soit très solide, ce soit des champignons en acier qui ne lâchent pas, eh bien on aurait finalement l'arbre voisin, champignons interposés, d'autres arbres, d'autres espèces, finalement on aurait toute la forêt au bout du doigt, au bout de la main, puisque tout est interconnecté de manière souterraine.
C'est une vraie solidarité.
Absolument, c'est une solidarité et qui se base non pas sur la concurrence uniquement, absolu, ça se base vraiment sur les échanges. Il y a des arbres qui ont des racines profondes. Lorsqu'il fait sec, eux peuvent encore avoir accès à cette eau. Ils vont tout d'abord alimenter leur propre système racinaire en eau, mais puisqu'il fait très sec, ces racines transpirent, paradoxalement, comme les feuilles transpirent. Et ces racines qui transpirent, alimentées par les profondeurs du sol, vont humecter le sol et ça va faire comme une pluie qui vient d'en bas pour des arbres qui ont des racines superficielles.
Et vous disiez, la forêt communique aussi, les arbres communiquent aussi en hauteur?
Alors ça communique pas seulement au niveau du sol, ça communique au niveau atmosphérique. La découverte, c'est lorsqu'un arbre se fait brouter par une antilope. Il y a un signal alarme antilope qui est émis et les arbres qui sont sous le vent savent qu'une antilope est en train de brouter l'un de leurs congénères, eh bien, ces arbres-là transforment leur consistance foliaire comme le premier arbre brouter le fait. Et ça oblige l'antilope d'aller d'arbre en arbre. Et ce qu'on a observé, c'est qu'elle le fait en allant contre le vent, parce que tous les arbres sous le vent sont déjà au courant qu'elle est en train de se nourrir. On va se dire, mais pourquoi cela? C'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué. Eh bien, imaginons que ce ne soit pas le cas, que cet arbre, cet acacia soit approché par cette antilope. C'est un koudou, c'est une bête assez considérable. Cette antilope économise son énergie, bien sûr. Elle mange pour avoir sa force. Et elle mangerait donc tout le feuillage de cet acacia seul. Et le cadeau en retour que l'antilope donne à la nature, c'est ses déjections. C'est d'une valeur inestimable pour les végétaux. Elle laisserait des déjections qui seraient au pied d'un arbre, peut-être même mort suite à cette totale défoliation. Donc là, ça ne fait pas de sens. Alors que si l'arbre qui crée une communauté, cet acacia n'est pas seul, il est avec les autres, il a des intérêts communs avec tous les acacias de la même espèce, il va envoyer cet antilope chez d'autres acacias de son espèce pour que l'antilope fasse aussi profiter les autres de ses déjections. Donc là, on voit un système de coévolution extrêmement intelligent, extrêmement adapté, extrêmement subtil. C'est la faune, antilope et la flore ont des choses à faire en commun. L'un reçoit de l'autre quelque chose et l'autre reçoit de l'un autre chose.
Polo et Pan chante la canopée dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous, on est extrêmement centralisés. On a des organes vitaux. On coupe le cou, c'est terminé. On perce le cœur, c'est terminé. Il n'y a pas l'équivalent sur des plantes, ni notamment sur des arbres. Tuer un arbre, c'est très difficile. Alors, on me dit, il suffit de le couper. Non, parce qu'il y a la partie qui tombe, qui va s'enraciner et qui va donner des rejets. Et ça va finir par faire une ligne d'arbres. Et puis, il y a la partie qui reste, qui va donner des rejets. Et généralement, ça stimule la production de drageons par les racines. Donc, au lieu d'un arbre, on en a plusieurs centaines à la fin.
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Nous sommes en compagnie de l'ingénieur forestier suisse Ernst Zürcher. Aujourd'hui, docteur en sciences naturelles, Ernst Zürcher étudie le rapport entre les arbres et l'ensemble du vivant, et même au-delà, puisqu'il a analysé 600 arbres abattus à 48 dates différentes pour démontrer scientifiquement que les forêts interagissent avec la Lune.
Avant, on a beaucoup parlé de connexion horizontale, pourrait-on dire, les forêts comme organismes qui enveloppent la Terre. Et là, c'est vraiment la connexion sociale. On parle de société végétale forestière.
Qui enveloppe la Terre, vous dites.
Qui enveloppe la Terre, c'est l'organe de protection de la Terre. Il faut le comprendre comme ça, et à tous les niveaux, avec des modalités de formation différentes. Et maintenant, si on reprend aussi ces savoirs ancestraux qui m'ont inspiré ces recherches, puisque les anciens, même en Europe, mon grand-père pratiquait ça aussi, pratiquaient en fait une agronomie, une foresterie, tenant compte de ce qui se passe en astronomie. Une foresterie, une agronomie cosmique quelque part, lunaire en tout cas, dans toutes les anciennes cultures. Chaque fois que j'avais des contacts avec des représentants de cultures anciennes, nord ou sud-américaine, indonésienne, même coréenne, finlandaise, etc., mais même le cœur de l'Europe, c'était une pratique avec la nature en tenant compte non seulement des saisons, donc du soleil, mais à l'intérieur de ces rythmes-là, en tenant compte des rythmes lunaires. Donc cet essai était destiné à tester une règle assez étrange forestière qui dit que la date d'abattage par rapport à la Lune joue un rôle sur les propriétés du bois. Jusqu'à présent, on croyait toujours que le bois était une matière morte. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. On s'est rendu compte que les propriétés du bois sont modulables en fonction de la date d'abattage des arbres. C'est absolument phénoménal pour la science moderne, mais c'était connu pour les anciens avec leur manière d'appréhender les choses. Et là, c'était vraiment un très grand essai qui a pris beaucoup de temps, et l'analyse a pris beaucoup de temps. On a utilisé tous les outils les plus perfectionnés de la statistique. Et là, on a pu valider des anciens savoirs grâce aux outils de la statistique moderne.
Mais qu'est-ce qui se modifie dans le bois par rapport au cycle lunaire ?
C'est probablement, là, on a dans un premier temps montré l'existence d'un phénomène. Est-ce qu'il est existant ou pas ? Est-ce que c'est des différences significatives ou dues au hasard ? Et c'est extrêmement significatif, c'est-à-dire en tout cas pas dû au hasard. C'est un phénomène qui se répète, qui est vraiment validé scientifiquement. Et derrière l'existence d'un phénomène qui a besoin de ces outils de démonstration scientifique, statistique, on a maintenant les processus qui mènent à ces phénomènes. Et pour ça, c'est d'autres méthodes qui vont nous permettre de comprendre les processus. On a différents niveaux de décortication des phénomènes. Phénomène existant, oui ou non. S'il existe, oui, quels sont les processus qui mènent à ça? Et là, c'est la physiologie végétale. Maintenant, on a des hypothèses de travail, mais je travaille encore dans ce domaine-là, mais d'autres équipes vont travailler là-dessus pour comprendre mais comment est-ce que ça se passe. Probablement dans le rapport entre l'eau et la matière organique. L'eau est extrêmement variable dans ses propriétés, aussi dans ces cycles-là. On sait très bien que les marées sont l'une des expressions du rapport entre l'eau, entre les masses hydriques et les cycles lunaires. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Le niveau d'organisation interne de l'eau, ce qu'on appelle les clusters, les grappes d'eau, sont extrêmement modulables en fonction de ces cycles. Et ça veut dire que l'eau, elle va s'attacher fortement à la matière, des parois végétales, donc au bois, dans les structures ligneuses. On a l'eau liée et l'eau libre qui circulent dans les vaisseaux pour alimenter la couronne. Donc cette proportion d'eau liée et d'eau libre probablement fluctue en fonction des cycles lunaires. Une fois l'eau est plus facile à extraire de l'arbre, c'est plus facile de sécher le bois lorsque c'est telle saison, telle période lunaire, et une autre période, l'eau reste prise dans le bois et c'est plus difficile de sécher, il aura d'autres propriétés.
Et ça veut dire que du coup, il faudrait choisir de couper les arbres en tenant compte du cycle lunaire si on veut un bois qui contient de l'eau ou qui n'en contient pas.
Absolument. Les anciens savaient ça exactement. Ils avaient tout un répertoire. si je veux construire une maison qui résiste, qui a du bois durable, qui résiste aux champignons, aux insectes, qui résiste aux effets des intempéries, qui ne devient pas facilement humide, qui va rester sec, là, il y a des périodes favorables. Et si je veux un bon bois de feu, qui va facilement perdre son eau, mais qui ne va pas qui va être très oxygéné, très aéré, peut-être pas aussi dense et aussi dur que l'autre, mais qui brûle facilement, un bon bois de feu, ça s'obtient à une autre période lunaire qu'un bon bois de construction.
Donc en vous écoutant, on se rend bien compte que une forêt, c'est beaucoup plus large que simplement un arbre à côté d'un autre. Mais un arbre en tant que tel, si on s'intéresse à l'individu, c'est aussi beaucoup plus que des racines, un tronc, des branches et des feuilles.
Absolument, c'est vraiment connecté avec ses collègues, mais c'est connecté avec quelque chose de prodigieux, avec tout le processus astronomique, tout le... Et ce qui est impliqué là-dedans, les anciens l'ont vraiment perçu. Ils ont perçu que ces arbres sont vraiment connectés à tout ce cosmos, finalement. Et que cet arbre pulse en fonction de ce cosmos. Nous-mêmes, on a mis des électrodes sur les arbres. J'ai encadré une thèse qui a finalement permis de découvrir qu'il y a des marées bioélectriques dans les arbres. Donc, tous les êtres vivants ont des courants électriques, l'être humain aussi, on met ça sur le cerveau, disons, on met les électrodes sur le cerveau pour mesurer ça, ben, les arbres la même chose. Et ces fluctuations des courants électriques des arbres ont lieu en fonction des cycles astronomiques. Et là, c'est vraiment la dimension cosmique des arbres qui est perçue. Un autre aspect, ces courants électriques dans les arbres, c'est aussi de l'eau qui circule. C'est des champs électromagnétiques qui sont mesurables. C'est des fréquences électromagnétiques aussi très basses. Et des radiotechniciens, déjà il y a un certain temps, étaient capables de percevoir des émissions radio européennes aux États-Unis en utilisant l'arbre comme antenne. Ils ont été capables d'émettre des émissions radio, je parle de radio, d'un continent à l'autre ou bien d'un lieu à l'autre en employant les arbres comme antennes d'émission. Donc les arbres sont vraiment aussi connectés, communiquant au niveau probablement électromagnétique et aussi avec d'autres êtres, avec les insectes probablement, avec peut-être l'être humain.
Alors quand on vous écoute, on se dit que quand on voit l'été que nous venons de passer en France par exemple, où il y a eu énormément d'incendies, ça a été le cas aussi en Californie, en Sibérie, dans plein de pays du monde, les forêts partent en feu à cause du changement climatique, sont réduites en cendres. Et vous avez écrit récemment dans une tribune que la situation actuelle est beaucoup plus critique qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire que même ces feux que l'on voit partout sur la planète, qui parfois sont qualifiés même de méga-feux, c'est déjà effrayant. Et vous dites, c'est encore pire que ce que l'on croit.
Oui, c'est, disons, la situation telle que nous, on l'a provoquée. Elle n'est pas venue spontanément sans qu'on y soit impliqué. Pour tout ce qu'on est en train de faire, on devrait se demander, mais qu'est-ce que ça coûte à la Terre? Quel est le bilan carbone? Combien de carbone est-ce qu'on émet dans l'atmosphère? Et combien est-ce qu'on en retire à l'atmosphère? Et les arbres ne font que de nous démontrer ce qu'il faudrait faire. Les arbres font cette photosynthèse, ils prennent le carbone de l'atmosphère, en font du bois, en font de la biodiversité, de la faune, etc. Et font du sol, font de la fertilité, n'arrêtent jamais de faire ça, d'aggrader la terre plutôt que de la dégrader grâce à ce carbone à disposition et en le mettant en forme, en fait, à disposition, et faisant des cycles hydrologiques. Nous, ce qu'on fait est de manière absolument aveugle et on s'évertue à dire, mais faites vos bilans carbone, calculez pour chaque action combien ça coûte, est-ce que c'est éventuellement trop dangereux de continuer comme ça? Eh bien, le bilan carbone de l'agriculture, de l'agro-industrie plus précisément dit, calculé pour les États-Unis, mais on est entièrement dans cette ligne-là pour l'agriculture conventionnelle, eh bien, ce bilan, c'est plus de 10 calories d'origine fossile sont nécessaires pour produire une calorie comestible. On s'est calculé le contenu énergétique de tous les intrants, y compris fabriquer les machines, et le contenu énergétique d'une carotte, d'une pomme de terre, ça, c'est un calorimètre, on a ça dans nos laboratoires, ça se calcule de la même manière, eh bien, il faut émettre 10 unités de CO2 pour en retirer une. Si on continue comme ça, c'est sans issue. C'est une agriculture qui emploie trop d'énergie, parce que les intrants sont énergivores. Et en plus, on fabrique des pesticides qui consomment beaucoup moins d'énergie, mais eux sont très, très impactants pour la vie des sols, donc pour la fertilité. Donc plus on tue les sols, plus il faut des intrants de synthèse. Donc c'est un cercle vraiment très dangereux. Et le défi, c'est de s'inspirer du modèle forestier qui a été calculé aussi. On a le bilan carbone du produit forestier classique. C'est la poutre, c'est la planche, c'est le bois, fabriqué par l'arbre pour tenir sur des siècles et des dimensions considérables. Eh bien, le calcul a montré que, en utilisant les forêts comme créateurs de matière, on a le produit disponible. C'est pas comestible, mais ça se mesure de la même manière, le produit disponible pour construire, pour faire des structures, pour séquestrer le carbone de manière durable. Après la vie de l'arbre, on a encore toute la durée de vie du bâtiment. Eh bien, ici, le rapport, c'est de 1 à 7. Une calorie d'origine fossile, c'est pour les machines, la sylviculture, le transport, le sillage des bois, le séchage technique, si on en a besoin. C'est une calorie, et grâce à ça, vous stockez 7 calories sous forme de bois. Donc, la foresterie montre qu'on peut avoir une activité avec la nature qui est bénéfique pour vous construisez un bâtiment en bois qui contient suffisamment de bois, vous faites du bien au climat, puisque vous avez séquestré ce carbone, vous l'avez pris à l'atmosphère grâce aux arbres. Et maintenant, c'est le défi de l'agriculture du futur, ce sera de rééquilibrer ces rapports, c'est d'avoir un bilan carbone en tout cas neutre, plus de 10 à 1, mais de 1 à 1, et si ça va bien, même positif, comme la forêt montre que c'est possible. La permaculture, agroforesterie, mais on doit aller encore plus loin que l'agroforesterie telle que on se l'imagine actuellement, c'est l'agriculture syntropique qui s'inspire encore plus des forêts, des systèmes de forêts à plusieurs étages. C'est en train de se mettre en place avec beaucoup d'endroits où ça se démontre.
Qu'est-ce que c'est l'agriculture syntropique ?
C'est-à-dire, c'est pas simplement une agriculture qui met les arbres pour côtoyer les cultures, pour aussi protéger les cultures, c'est important de le faire, mais c'est vraiment une agriculture qui invite les arbres à beaucoup plus petite échelle, à tous les niveaux. Et on a un niveau d'arbres majeurs, moyens, arbustes, qui protègent des cultures au niveau du sol, du maraîchage par exemple. Et de cela, on en aura de plus en plus besoin parce que l'impact solaire est de plus en plus fort. Et là, on a déjà beaucoup d'endroits qui seraient prédestinés à devenir cela. C'est par exemple pas seulement les forêts naturelles qui fonctionnent bien, mais les forêts artificielles dans les Landes, par exemple. Là, on pourrait faire des tas de choses en dessous de ce couvert forestier qui protégerait une nouvelle forme d'agriculture qui a cette protection semi-filtrante pour le soleil qui vient de plus en plus fort pour mettre en place une autre occupation du terrain. Parce que ce n'est pas pour rien que c'est ce genre de forêt qui brûle, parce qu'on a remplacé des forêts feuillues ou des systèmes herbacés par des forêts de résineux. Qui dit résineux, dit résine. Et ces sols, puisque c'est des monocultures, ne se décomposent plus normalement comme si c'était des forêts mélangées. Ces sols accumulent de la matière organique qui ne se décompose plus, riche en résine, les feuilles mortes, les aiguilles mortes. Et tout ça est carrément explosif. C'est pour ça que ça brûle si vite. Et je ne connais pas l'exemple de la Sibérie, mais en Californie, on a aussi beaucoup trop pompé dans la nappe phréatique. Ces forêts sont en stress hydrique. Même des forêts naturelles, lorsqu'on leur enlève leur eau qu'elles auraient accumulée. Et c'est ainsi que des forêts commencent à brûler trop facilement.
L'arbre va tomber, les branches salissaient les murs. Rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs. L'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, de la place au carrefour.
l'homme est décidé, et l'homme est le plus fort toujours. C'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre à coucher dehors. L'arbre va tomber, l'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce. Et tellement qui s'y abrite encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois.
Nous sommes en compagnie de l'ingénieur forestier suisse Ernst Zürcher. Ce docteur en sciences naturelles est inquiet d'observer l'ampleur des incendies qui ravagent les forêts à travers le monde. Des incendies qui ont toujours, directement ou indirectement, une origine humaine.
C'est probablement anthropique. Sinon, le nombre de millions d'années qui ont eu lieu de manière forestière jusqu'ici n'aurait pas abouti dans ce foisonnement d'espèces et de réussites évolutives. Maintenant, c'est vraiment l'impact humain qui a déstabilisé les forêts. Et maintenant, on comprend aussi pourquoi ces forêts sont déstabilisées. Et là, très rapidement, on est en train de corriger. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit les instances officielles qui s'y mettent et qui soutiennent vraiment cette transformation. Et j'ai un chiffre très simple. Qui s'inspire de la loi de Pareto, que les économistes et les gens de la communication connaissent bien. C'est qu'avec 20% de l'effort, on a 80% du résultat. Et les imbéciles, c'est ceux qui veulent 100% du résultat parce qu'ils sont obligés d'ajouter 80% d'effort. Alors ici, c'est une manière assez élégante d'être un peu paresseux et avoir du temps pour soi aussi. On n'est pas obligé de travailler sans arrêt. Il faut comprendre cette loi-là. Et transcrite à notre situation actuelle, comprendre que, en tout cas 10%, je dirais de manière un peu modeste, du paysage qui était à l'origine occupé par la forêt qui nous a amené cette fertilité et cette richesse, devrait être restitué à la forêt, mais de manière gérable par les agriculteurs. C'est 10% du paysage sous forme de lisières forestières riches en espèces, de cordons boisés, de haies, surtout un système bocager machine compatible, pour dire ça simplement. Et ça, c'est très important parce qu'on sait faire. On l'a fait. Et ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, c'est que le pic de diversité animale, de faunistique, dans le paysage européen, l'étude a été faite pour l'Allemagne, je crois, mais c'est valable pour ailleurs, c'était pas lorsque les forêts étaient encore complètement intactes. C'était lorsque les paysages avaient été transformés de manière bocagère. Parce qu'on a, en règle générale, ouvert les forêts, on a aménagé des endroits de culture ou de pâture. Et c'est des endroits où vous avez un front sud, un front est, un front ouest, un front nord, d'une forêt qui, sans cela, serait un continu complètement fermé, ayant de temps en temps des ouvertures dues à des catastrophes, à des tornades, etc., qui ont toujours eu lieu. Et là, le changement d'échelle et les dégâts dans la forêt sont très importants. Il faut toujours encore des nouvelles clairières. Et là, l'homme les avait faites de lui-même pour son intérêt. Et jamais il y a eu autant d'espèces végétales, animales, floristiques aussi, qu'à cette époque du bocage, à son apogée. Parce que les espèces du sud et de l'est pouvaient migrer contre le nord et l'ouest. Et maintenant, ce qu'on propose, c'est s'inspirer de cette constatation, réinstaller du bocage en communication avec les forêts naturelles pour que la faune puisse de nouveau occuper le terrain, irriguer le terrain par sa richesse. Et ce n'est pas des concurrents, c'est des auxiliaires de culture qu'on permet de recirculer partout. Ça, c'est pour l'agriculture. Et pour toutes les forêts qu'on a anthropisées, qui sont devenues dangereuses, je propose exactement la même chose. C'est redonner 10% de cette surface forestière à des formes forestières naturelles, sauvages, réensauvager la forêt anthropisée, qui sont sous forme de monoculture, pour que la forêt puisse repénétrer dans ces immenses surfaces qui ont été transformées artificiellement pour amener la biodiversité. Et ce qu'on observe, ce que j'ai observé dans mes recherches en Afrique, c'est que même des plantations artificielles, lorsqu'elles sont mises en contact avec des formations naturelles forestières, à partir de ces formations naturelles, la faune va ensemencer la forêt avec des espèces naturelles. Et sous les forêts artificielles, vous avez de nouveau la forêt originelle qui germe. C'est très rapide.
C'était où en Afrique ?
C'était au Rwanda. C'était sur les forêts qui entouraient le massif intact de la crête Congo-Nil. C'est un très grand massif forestier de Nyungwe, plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et là, j'avais mes recherches de dynamique forestière. Et ce massif forestier primaire était protégé par des reboisements que la coopération au développement suisse avait mis en place pour protéger ce reste, cette relique de forêt, parce que les gens allaient en forêt pour le bois. Donc, on leur reboisait la périphérie et puis c'était plus facile d'aller se servir dans ce supermarché que d'aller faire l'effort d'aller jusqu'en forêt naturelle. Et là, dans ces forêts mises en place par l'homme pour protéger le massif naturel, on voyait que le massif naturel repénétrait ces boisements artificiels par le dessous, grâce à la faune et grâce à ces corridors de biodiversité et de pollinisateurs probablement.
Et avec tout ce que vous venez de nous expliquer, en fait, on se dit que couper un arbre, c'est criminel. En même temps, vous disiez que c'est un moyen de stocker du carbone aussi, de construire avec du bois. Donc, c'est quoi ? C'est une question de mesure ? On peut couper des arbres, mais pas n'importe comment et pas dans des quantités astronomiques ?
Oui, alors là, c'est très important de comprendre les choses et qui nous remettent un peu dans le pragmatique et qui nous rendent un peu plus confortable la position de l'homme qui doit gérer la nature, qui doit, entre guillemets, couper des arbres. C'est important de comprendre, et j'ai mis longtemps à comprendre ça, mais maintenant je suis très très à l'aise avec ça. C'est important de comprendre qu'un être peut être un organisme à part entière. Un arbre est un organisme qu'on peut déraciner, replanter, ça repart. Mais cet organisme peut devenir organe d'un organisme d'un ordre supérieur. L'arbre peut être organe de la forêt. Alors un arbre individuel, là c'est vraiment grave de le couper lorsqu'il trône sur une colline, lorsqu'il... Il façonne le paysage urbain ou autre, il est irremplaçable. Mais lorsque l'arbre, ensemble avec d'autres, constitue une forêt, c'est plus du tout la même chose, il n'est plus irremplaçable. Il est ensemble avec d'autres à faire quelque chose de mieux. C'est un saut quantique au niveau de l'intelligence collective. Et l'arbre, ici, a un autre statut. Et le forestier, tel qu'on l'est devenu, en fait, en comprenant les forêts comme ça, a comme organisme de référence non pas l'arbre, mais la forêt. Il est forestier, il n'est pas arboriste. Et en tant que forestier, il a l'intérêt de dynamiser, de gérer l'espace ou l'organisme forestier en prélevant des arbres de manière dosée pour éclaircir la forêt, pour permettre la lumière de manière dosée de repénétrer dans la forêt, pour favoriser le recrut et la croissance des arbres en préparation, en attente, dans le sous-étage forestier. Donc le forestier qui travaille comme ça n'est pas un tueur d'arbres, c'est un médecin de la forêt.
Donc il faut faire des coupes sélectives.
Exactement. Coupes sélectives en couvert continu. C'est un peu le terme qu'on peut appliquer pour ce qu'on appelle aussi la futaie jardinée, c'est-à-dire sélective, arbre par arbre, avec des machines les plus légères possibles. Et par endroit, on utilise le cheval de trait pour être le moins impactant possible. Et ça, c'est un très beau travail qui est en fait qui offre des postes de travail. Et c'est pas absolument nécessaire de rationaliser partout, parce que d'un côté, on a un impact sur les systèmes naturels avec des machines trop grosses, mais en même temps, on enlève beaucoup de postes de travail. Et ceci est possible lorsqu'on redonne de la valeur au matériau final, au bois par exemple. Le bois est beaucoup trop bon marché. Il faudrait que le bois, ses vraies valeurs, qui permettent sa vraie valeur pour permettre cette belle sylviculture qu'on sait, qu'on connaît en fait.
Et autre question, parce qu'on voit énormément ce principe de compensation carbone se développer en plantant des arbres. Plein de gens plantent des arbres partout en se disant « bon bah, c'est bon pour le climat, je plante », mais là, vous vous dites attention.
Oui, c'est en lien avec le dernier livre que j'ai écrit chez Actes Sud sur invitation. On m'avait demandé « mais est-ce que vous pourriez écrire un livre sur planter un arbre ?» Comment est-ce qu'on fait ça en fait ? Qu'est-ce qui est derrière ? Qu'est-ce que ça permet ?
Dans la collection « Je passe à l'acte ».
Exactement. Et j'ai mis longtemps à réfléchir, à hésiter. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que tu hésites comme ça ? Je ne la sentais pas. Et c'est jusqu'au moment où j'ai compris qu'il faut proposer plus dans le titre, planter un arbre, d'accord, mais créer une forêt. Et comment est-ce qu'on crée une vraie forêt vivante, une forêt telle que la nature voudrait la voir, là où elle doit de nouveau prendre sa place ? Et c'est comprendre justement cette manière d'associer les espèces. Tout d'abord, comment est-ce qu'on récolte les graines ? Comment est-ce qu'on... On prépare des plants en pépinière parce que c'est important d'avoir des plants de bonne configuration avec beaucoup de racines par rapport à la partie aérienne pour qu'ensuite ça réussisse vraiment. Et en parallèle à ça, il faut aussi toujours encore semer pour que la nature aussi fasse les choses par elle-même. Donc, planter des arbres, c'est bien joli, mais si cette promesse se limite à refaire une plantation artificielle en monoculture, quelque part, on fait plus de dégâts, finalement. C'est des forêts incendiables, des forêts combustibles. Là, c'est moyennement gagné parce que c'est très, très précaire comme résultat. Donc, si on plante des arbres en mélange, c'est déjà beaucoup mieux. Et des grands essais en Chine, ensemble des universités européennes, ont montré que plus on mélange, mieux ça réussit. Et maintenant, après avoir planté et en mélange, ce qu'il faut, c'est le suivi. Parce que si vous laissez les forêts à l'abandon, ce sera du pain béni pour la faune, pour le bétail, naturellement, en pâturage. Donc, ces forêts, il faut les accompagner. Donc, il faut des gens sur place. Et le mieux, c'est d'aller là où il y a déjà une activité humaine, des gens qui font déjà de l'agriculture, et de mettre en place ensemble avec eux des systèmes agroforestiers, permacoles ou en synthropie, pour que ces arbres ne soient pas seulement plantés pour être plantés en tant qu'arbres, mais pour être utiles aux hommes.
Merci beaucoup, Ernst Hirscher.
Merci à vous.
Le dernier livre de Ernst Hirscher a pour titre « Arbres entre visibles et invisibles, s'étonner, comprendre, agir ». Il est publié chez Actes Sud. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr et à partager nos podcasts. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.